Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voilà, c'est sans rendez-vous. Et là, pour le coup, c'est sans modération. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent, pour vous faire du bien, pour nous faire rigoler, enfin pour tout plein de choses, tous les jours. Jimmy, bonjour.
Bonjour Mélanie, c'est vrai, le couteau suisse d'Europe 1, on m'appelle.
Ah ouais, c'est incroyable. Hier c'était Neymar de la médecine, aujourd'hui c'est couteau suisse d'Europe 1. Allez, au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet passionnant et fascinant même, je dirais, la réalité virtuelle et les environnements 3D au secours de notre santé mentale plus précisément. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais les technologies numériques permettent déjà de soigner efficacement certains troubles psy, anxiété, phobie, TOC et même addiction. Notre invité, le docteur Éric Malbos, est psychiatre et enseignant, chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception à Marseille. Il va nous expliquer comment ces nouvelles solutions permettent de retrouver un bien-être mental. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous ferons un point cet après-midi sur un bobo qui est difficile à supporter chez les jeunes parents, même si ce sont les bébés qui en souffrent, les coliques. Grand spécialiste du sujet, le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de sexualité durant la grossesse et répondra à de nombreuses questions que se posent les futures mamans.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Éric. Écoutons-la.
Donc je suis grand-père depuis peu de temps et son pédiatre lui a conseillé de me vacciner contre la coqueluche dans l'hypothèse où je serais amené à rencontrer très souvent mon fils et son bébé. Pourriez-vous me confirmer si vraiment c'est absolument nécessaire ? Voilà, merci.
Alors Jimmy, c'est une très bonne question qui parle finalement de ce qu'on appelle la stratégie vaccinale cocooning. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors c'est extrêmement simple. Il s'agit de vacciner...
L'orthophoniste aussi, je vous donnerai l'adresse.
Il s'agit de vacciner les parents et les grands-parents, l'entourage proche d'un enfant qui va venir au monde pour le protéger et pour éviter de lui transmettre des maladies, en particulier celle de la coqueluche.
Alors Eric, il devrait suivre, j'imagine, vous allez le confirmer, le conseil que lui a été donné de se faire vacciner contre la coqueluche, d'autant que c'est un vaccin qui est tout à fait sûr.
Tous les vaccins qu'on propose sont sûr, et surtout si on prend la balance bénéfice-risque, quel bénéfice vous avez pour quel risque? Le risque est quasiment nul, proche de zéro. En revanche, les bénéfices sont extrêmement importants, car dit comme ça, la coqueluche, ça n'a pas l'air méchant, et pourtant, ça a un impact majeur, notamment lorsqu'on attend un nouveau-né, puisque malheureusement, ça peut tout simplement le tuer.
Et oui, j'allais dire, bon voilà, on commence l'émission un peu tristement, Jimmy. Juste pour convaincre, en tout cas, les réfractaires, s'il en reste, de cette vaccination cocooning contre la coqueluche. Une coqueluche chez un nourrisson, ça peut être très sérieux. Vous avez dit, ça peut être mortel, évidemment, mais c'est pas tout le temps le cas. Ça peut, en tout cas, être grave en termes
de
symptômes.
Ça peut être grave, mais surtout, ouais. On se rend compte que ça réduit la mort subite du nourrisson. Pourquoi ? La coqueluche, et la personne qui va être un adulte ou un enfant de 2-3 ans, va être responsable d'une toux. Une toux qui va traîner, qui va être invalidante.
La toux de coque, c'est pour
exactement,
ça que...
Et pour laquelle voilà. On va s'en sortir. En revanche, les bébés, lorsqu'ils ont la coqueluche, ils vont faire des apnées. Le problème d'un nouveau-né, c'est que lorsqu'il fait des apnées, son taux d'oxygène va baisser et normalement, en réponse, il va se mettre à se réveiller et à bouger. Sauf que ce signal ne marche pas chez les nouveau-nés. Ils font des apnées centrales qui font qu'ils vont peut-être s'arrêter de respirer à cause de la coqueluche.
Voilà, oui.
Donc, en vous vaccinant, vous éviterez de leur transmettre cette coqueluche. Et donc, on diminue le risque de mort subite du nourrisson.
Bon, moi, je crois que c'est clair. Il faut se faire vacciner quand on va être même grand-père. Merci, Jimmy. On va prendre tout de suite une autre question qui nous a été laissée sur notre répondeur par Eliana au 3921. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que je suis fan de séries médicales, notamment de Grey's Anatomy. Et l'autre jour, il disait on va lui faire les gaz du sang. Je me demandais ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on a vraiment du gaz dans le sang? Et est-ce que de faire les gaz dans le sang, ça fait mal? Merci beaucoup, bonne journée.
Eh oui, Jimmy, on répond même aux fans de séries médicales. Alors Jimmy, le dosage des gaz du sang, c'est quoi?
Alors, effectivement, on a du gaz dans le sang. Lorsque vous respirez de l'oxygène. Cet oxygène va aller dans votre bouche, dans vos bronches, dans les bronchioles, dans les alvéoles. Il va franchir une petite membrane qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire qui va ensuite aller dans le sang. Et donc, en faisant des gaz du sang, on va essayer de doser l'oxygène, le dioxyde de carbone qui est présent de façon naturelle.
D'accord. Alors, on entend beaucoup ça, effectivement, dans les séries médicales. Allez-y, faites-lui les gaz du sang. Pour quelles raisons? En général, ils ne sont pas dans une très bonne situation, les patients,
non,
quand on demande ça.
C'est souvent dans le cadre de détresse respiratoire, ouais, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, votre taux d'oxygène peut baisser. Et à l'inverse, votre taux de dioxyde de carbone peut augmenter. Et ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire que votre sang peut être plus acide ou plus basique et qu'il y aura des conséquences pour savoir comment est-ce qu'on va vous prendre en charge par la suite.
Comment on le fait, ce dosage de gaz,
alors,
du sang? C'est une simple prise de sang ou c'est plus compliqué?
C'est une prise de sang, ouais, mais c'est un gaz du sang. Souvent, on veut le sang artériel. Ah. Et donc, il faut piquer dans une artère. Et l'artère la plus simple, celle pour laquelle on a facilement un accès, c'est au niveau du poignet. Et c'est assez douloureux, sauf quand on a une bonne technique. Et donc, ça se fait en cassant un petit peu le poignet.
En même temps, si on est dans les vapes, on sent rien.
Ouais, mais malgré tout, un patient qui va avoir une toux, qui va avoir une détresse respiratoire, il va être conscient et ça peut être un peu douloureux. Donc, c'est un examen qu'on ne demande pas souvent, mais qu'on demande uniquement dans les cas de détresse respiratoire ou par exemple, lorsqu'on a un diabète, vous avez des cétones qui vont s'accumuler dans le sang et on va chercher à savoir si votre sang est plus acide ou pas, pour savoir comment vous prendre en charge.
Et donc, dans le dernier épisode de Grey's Anatomy, quand ils demandent les gaz du sang, c'est pour quoi faire derrière? Qu'est-ce qu'on propose une fois qu'on a les résultats?
On va changer la ventilation. Ouais. Au lieu de vous mettre de l'oxygène avec des lunettes, on va peut-être vous mettre un masque avec de la ventilation non-invasive. Ça permet de savoir s'il faut vous rajouter du bicarbonate, un peu de sel, un peu de poivre, faire de la cuisine de docteur. Mais tout ça, ça dépasse les compétences des séries. Croyez-moi que c'est déjà pas mal.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Eliana, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Éric Malbos, psychiatre et spécialiste de la réalité virtuelle quand elle vient au secours de nombreux troubles ou maladies mentales. Ce n'est pas une émission sur de la médecine futuriste. Hein. C'est déjà utilisé par certains spécialistes contre les TOC, les phobies ou même les addictions. On va vous expliquer comment. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, docteur Éric Malbos. Bonjour.
Bonjour, content d'être là avec vous dans la réalité.
Oui, très bien, c'est vrai. Vous êtes psychiatre, enseignant et chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et vous êtes l'auteur du livre Psychothérapie et réalité virtuelle paru chez Odile Jacob. Alors justement, on va faire peut-être une entrée en matière en douceur pour nos auditeurs qui découvrent aujourd'hui peut-être tout simplement pour la première fois cette approche. D'abord, est-ce que vous pouvez nous définir simplement ce qu'est la réalité virtuelle?
Alors, la réalité virtuelle, peut-être que vos auditeurs ont déjà essayé, hein, c'est un ensemble d'appareils, des visio-casques qu'on trouve partout hein, dans les commerces, qui permettent aux utilisateurs, et souvent aux joueurs de jeux vidéo finalement, d'être dans des environnements virtuels, dans des environnements 3D, construits par ordinateur, et de pouvoir interagir.
Et parfois on parle de réalité augmentée, c'est quoi la différence avec la réalité virtuelle, si jamais il y en a une, parce que d'ailleurs, ça se trouve, c'est la même chose?
Mon cher confrère, c'est une excellente, c'est une excellente question. En fait, la réalité donc, virtuelle, vous avez un casque qui est opaque, donc vous ne voyez que ce qui est dans le casque. Mais par contre, dans la réalité augmentée, c'est une visière transparente. Donc vous voyez au travers, vous voyez ce qui se passe, et se surajoutent en fait des informations souvent sous forme de texte, exactement comme sur certaines voitures ou sur le pare-brise s'affiche la vitesse de la voiture.
Alors docteur, on va revenir à la médecine. Si les débuts de la réalité virtuelle datent des années 50-60, hein, j'ai appris ça dans votre bouquin, son utilisation à visée thérapeutique, elle est beaucoup plus récente, non? On en est vraiment au balbutiement aujourd'hui encore?
Finalement, pas tant que ça, parce que les premières études cliniques remontent à 1992.
Ah oui, c'est pas si
ça veut dire qu'il y a quand même déjà 29 ans de publications scientifiques et d'études cliniques qui donc démontrent effectivement l'efficacité.
Alors justement, sur l'aspect technique, de quoi a-t-on besoin pour faire justement un
Jimmy
exercice
veut se lancer,
de,
je crois,
voilà,
ça y
est. Réalité virtuelle, c'est bien, c'est bien. Un casque, d'un équipement particulier, comment ça se présente?
Alors souvent, le thérapeute a besoin que de deux équipements. Il a besoin du visio-casque qui est fourni avec les contrôleurs, qui sont des manettes, hein, parce qu'il faut pouvoir prendre des objets. Une personne qui a l'addiction, elle doit pouvoir prendre un paquet de cigarettes ou alors une bouteille de vodka. Donc le visio-casque et les contrôleurs, et il faut bien sûr un ordinateur. Mais maintenant, vous avez certains modèles comme ceux de Oculus, comme l'Oculus Quest 2 qui est sorti, où il n'y a même plus besoin d'ordinateur, le casque est parfaitement autonome, et vous avez juste besoin de vos manettes, il n'y a même plus de fil. Et là, vous pouvez donc tranquillement vous lancer chez vous ou chez le thérapeute.
Alors, dans ce casque, je crois qu'il y a des trackers de mouvement, des capteurs, en fait, si je ne me trompe pas. Ça sert à quoi, ces capteurs?
Alors, en fait, c'est simplement pour que vous ayez vraiment l'impression que vous êtes dans la réalité. C'est-à-dire que lorsque vous tournez la tête, le paysage va se déplacer de manière concomitante, comme dans la vraie vie.
Ouais, c'est incroyable.
Et en plus de ça, il peut y avoir des accessoires à côté. On peut être dans un fauteuil qui vibre, des choses pour
vous aimez bien les trucs high-tech, hein, Jimmy, vous, ça vous plaît bien tout ça.
En immersion, avoir une espèce de retour, est-ce que ça sert à quelque chose d'ailleurs ?
Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se sentir présent, d'exister dans un environnement qui n'existe pas parce qu'on veut provoquer les mêmes émotions. L'anxiété, l'envie de fumer une cigarette, l'envie de s'injecter de l'héroïne. Donc en fait, on va utiliser pas seulement les casques, mais parfois on utilise aussi d'autres appareils, comme des fauteuils qui provoquent des vibrations. Par exemple, c'est très utile pour la peur de l'avion, parce que dès qu'il y a une turbulence dans les environnements virtuels, on fait vibrer justement...
J'ai pas peur de l'avion, mais rien que d'y penser, ça me fait peur en fait.
On fait vibrer le fauteuil, et ça accentue, parce qu'on stimule un sens de plus, ça accentue l'impression d'y être. Et il y a une turbulence, oh, j'ai l'anxiété, je commence à avoir les mains moites. Et donc c'est très utile pour les aider à gérer.
J'ai vu des plateformes même pour, je sais pas, nager, des trucs où on se met à plat ventre carrément. Enfin, y a
oui,
plein
c'est sans limite, hein. Effectivement, ouais. On a même des patients qui ont peur de nager, on utilise... la réalité virtuelle pour ça.
On les met à plat ventre et hop, on les fait nager avec le casque sur la tête.
Quel type de soignant peut justement utiliser ce genre de technique ? Est-ce qu'il y a des logiciels pour nous aider et faire en sorte que ce soit accessible, non pas à tout le monde ?
Il veut s'y lancer. Lui, il fait de la médecine en consultation à domicile, mais je ne sais pas comment il pourrait l'utiliser, mais pourquoi pas ?
Oui, tout à fait. En fait, pour les professionnels, tout comme pour les patients, vous avez des logiciels qui sont vendus dans le commerce. Il y a plusieurs entreprises, hein, comme Citocare, qui se trouve en France, InVirtuo, qui est au Québec, Neurovière, qui est en Italie, qui met à la disposition de tous les thérapeutes. En général, ce sont des médecins, médecins généralistes, médecins psychiatres, et aussi les psychologues ou les psychothérapeutes. Ces logiciels pour que, d'un clic, parce qu'il faut que ce soit très facile, hein, d'un clic, ils puissent traiter leurs patients en réalité virtuelle.
Alors, en pratique, justement, moi, je ne sais pas, je découvre un peu tout ça avec vous, hein, mais je sais qu'il y a des grands services hospitaliers dans lesquels on l'utilise, mais est-ce que, franchement, partout en France, par exemple, on peut avoir accès, j'en sais rien, pour soigner son TOC, son addiction, à des médecins, des thérapeutes qui ont cet équipement ?
C'est une bonne question, en fait, Mélanie, et on forme effectivement des médecins et des psychologues pour ça. Et dans les pays francophones, donc essentiellement Belgique, Suisse et la France, il y a 1000 thérapeutes qui pratiquent la réalité virtuelle et on peut les trouver sur une liste, sur un annuaire s'appelle phobie.com. Très facile.
Et là-dessus, il y a toute la liste, on verra s'il y en a un point proche de chez soi. Chez vous.
Est-ce qu'on a suffisamment en France ou est-ce qu'il y a quand même un déficit ?
C'est sûr que 1000 sur 3 pays, c'est pas encore tout à fait suffisant, mais ça augmente de plus en plus puisque ça prend parmi les thérapeutes. Et les patients aussi, parce qu'ils aiment ça, parce que pour eux, c'est un peu comme des jeux vidéo.
Ah ouais,
super,
ouais,
on va faire du jeu vidéo. Bon, ça motive les jeunes, ils sont là, génial.
On va passer à la pratique justement. Docteur Malbos, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour soigner de nombreux troubles mentaux. On va passer à la pratique justement. Comment ça se passe très concrètement pour un patient qui souffre d'anxiété par exemple ou qui a des TOC ou des phobies ? On y revient très vite. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Sans rendez-vous. 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, docteur Eric Malbos. Vous êtes psychiatre, enseignant et chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et vous êtes également l'auteur du livre Psychothérapie et réalité virtuelle, paru chez Odile Jacob. Alors l'idée de se servir de la réalité virtuelle en médecine et surtout en psychiatrie ou en psychothérapie, elle est venue parce que c'est un domaine médical finalement, via les thérapies cognitivo-comportementales, on va expliquer ce que c'est, où il y a une phase où le patient doit s'exposer à la situation qui lui fait peur, par exemple les TOC ou les phobies de conduite, de propreté, on va détailler, mais il vaut mieux que ce soit progressif justement, donc c'est pour ça qu'on a pensé à appliquer cette nouvelle technologie-là.
C'est exactement ça, parce que la thérapie traditionnelle dans le passé était d'exposer le patient à ce qu'il craint en fait. Donc c'est sûr que mettre un patient qui a peur des chiens en face de vrais chiens, une personne qui a peur des araignées en face de vraies araignées, une personne qui prend l'avion dans un avion direct ou une personne qui a des TOC devant une flaque de sang, c'est quand même très brutal et très dur.
Et coûteux quand c'est l'avion.
Et alors oui, quand c'est l'avion, alors là, il faut être une star. Ou alors un millionnaire, parce qu'il faut pouvoir payer un psychiatre ou un psychologue sur plusieurs jours, hein, c'est sûr.
C'est ça. Donc c'était une évidence.
Est-ce que vous avez justement l'exemple d'un patient qui vous vient en tête ? Vous parlez dans votre livre d'un patient qui était claustrophobe et qui avait un lymphome, ou est-ce que vous en avez un autre que vous avez pu améliorer justement avec la thérapie virtuelle ?
Celui-ci, c'est effectivement un bon exemple parce que c'est un patient. On a des cas particuliers puisqu'on est au CHU. Hein. Donc, effectivement, il avait un lymphome, mais il devait être traité. Il fallait qu'il passe donc 2 mois en chambre d'isolement alors qu'il est claustrophobe. Imaginez un instant.
Quelle horreur, ouais.
Donc,
pour lui. Ça devait être
5 secondes, 10 secondes dans un ascenseur. Bon, mais 2 mois dans une chambre d'isolement. Voilà. Donc, on a fait avec lui la psychothérapie qu'il a TCC, comme vous avez dit, et on l'a exposé à une reproduction en 3D de sa chambre d'isolement que j'avais créée, parce que je crée aussi mes environnements virtuels.
C'est sur mesure, hein, en plus, complètement. Là,
bon, ça peut être sur mesure quand le psychiatre sait le faire, parce qu'il faut qu'il puisse créer les environnements virtuels. Mais sinon, comme je l'ai dit, dans le commerce, on trouve des environnements tout près. Et ça l'a aidé, il a pu donc ainsi vraiment être traité, donc bénéficier de sa chimiothérapie et rester 2 mois en chambre d'isolement. Mmh.
L'avantage aussi de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, TERV, dans votre livre, j'ai vu, c'est que pour les patients les plus graves, pour qui c'est impossible d'envisager s'exposer à l'objet de leur phobie, par exemple, même tout doucement, eh bien, le virtuel, ça permet vraiment de l'accepter plus facilement. Vous l'avez remarqué, certains qui ne voulaient pas du tout se lancer dans des TCC, justement, avec la réalité virtuelle, ça passe mieux.
Beaucoup mieux, parce que justement, comme dans tout apprentissage, y compris avec les enfants, un enfant, vous ne le jetez pas dans l'océan pour qu'il apprenne à nager. Hein. C'est très doux, donc ça veut dire qu'il faut y aller très 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 lentement. Une personne qui a peur de l'avion, eh bien, on va commencer par un avion qui reste sur le tarmac, qui n'a pas de passagers et dont le sas reste ouvert. Comme ça, la personne peut tranquillement rentrer dedans, prendre son temps, ressortir, faire les méthodes de TCC qu'on lui a enseignées, relaxation, gestion des émotions, et ça passe beaucoup mieux comme ça.
Et après, ils disent « fermez la porte, on décolle ».
Voilà, le sas.
Est-ce qu'on a des études qui montrent que cette thérapie est efficace, ou en tout cas qu'elle est préférée par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale? Est-ce qu'on a des chiffres qui pourraient justement inciter les gens à se dire « ah oui, effectivement, ça marche et ça marche plutôt bien ».
C'est une très bonne question, Jimmy, de la poser, parce qu'à l'heure des fake news, il faut vraiment qu'on puisse démontrer qu'une thérapie, quelle qu'elle soit, puisse être efficace avec des patients, qui aient des tests, des études. Donc il y a déjà eu en fait des études sur 29 ans, il y a déjà eu des méta-analyses, c'est-à-dire une compilation de résultats, qui montrent que la thérapie par exposition à la réalité virtuelle est plus efficace que la thérapie classique traditionnelle d'exposition, et aussi en fait qu'il y a une meilleure motivation.
Autre avantage aussi, j'imagine, de par exemple dans les phobies, hein, l'utilisation de la réalité virtuelle, c'est que ça permet aussi de répéter autant de fois qu'on veut, hein, c'est ça, parce qu'on le disait, pour l'avion par exemple, c'est compliqué que de se confronter à des décollages régulièrement, donc vraiment c'est illimité.
C'est limité parce qu'effectivement, on a des patients qui ont peur des moments spécifiques. Moi, c'est surtout les turbulences. Moi, c'est quand le chien qui aboie. Donc, pas de problème. On peut répétitivement exposer un patient à un chien qui aboie.
On peut vous donner une heure de turbulence, si vous voulez.
Voilà, une heure de turbulence avec des gens qui crient dans l'avion. Au secours !
Mais c'est bon, c'est ça. Plus ou moins fort, des bébés qui pleurent.
Des bébés qui pleurent, on les a, exactement, tout à fait. Hein. Mais là, on fait ça vraiment quand le patient est prêt et qu'il a fait plusieurs séances, parce que ça, c'est quand même plus dur, là.
Et justement, ça prend combien de temps avant d'être désensibilisé, en quelque sorte ?
Alors, c'est effectivement, le protocole est systématique, c'est-à-dire que c'est vraiment standard, et en général, c'est entre 12 et 14 séances, ce qui prend donc 3 à 4 mois à peu près.
3 ou 4 mois, et ça peut être plus long, moins long, enfin, c'est vraiment à chaque fois au cas par cas, hein, c'est ça ?
Ça peut être un peu plus souple, on peut rajouter effectivement quelques séances, mais la majorité retrouve leur liberté, parce que c'est ce qu'ils cherchent en fait finalement. Ils le retrouvent au bout donc de 3-4 mois.
Et ces exercices qu'on fait avec le praticien, est-ce qu'on pourrait les répéter à domicile ? Est-ce qu'on leur donne des outils ou, je sais pas, des démos pour essayer de s'entraîner, peut-être le soir ou de temps en temps ?
Alors c'est le but, hein, effectivement. C'est-à-dire qu'on passe 5 séances sans réalité virtuelle, hein, à leur expliquer toutes les méthodes de psychothérapie. Gestion des émotions, thérapie cognitive, il faut pouvoir apprendre à gérer son stress. Hein. Donc on leur donne des outils, c'est ça dont ils ont besoin finalement.
Oui, on n'arrive pas dans la machine, pof, allez, on se met dans le truc qui simule l'avion, le décollage, on se met à crier, puis au bout de la 10e fois, on ne crie plus. On a fait un infarctus, mais au moins...
C'est ça, exactement, parce que là aussi, ce serait trop dur. Les patients ne sauraient pas comment faire. D'accord, je suis anxieux, j'ai envie de fumer, mais comment je fais pour gérer tout ça ? Donc heureusement, on leur donne des outils que j'ai nommés. Et à la maison, ils peuvent effectivement s'entraîner aussi bien avec leur compagne ou leur compagnon qu'un tout petit peu dans la réalité progressivement.
Vous leur donnez des casques pour la maison
Alors, c'est ce qui est en train de se passer. En 2021, effectivement, les environnements virtuels vont être disponibles pour les patients. Et s'ils ont des casques, qu'ils peuvent en trouver partout, ils pourront même s'entraîner à la maison, absolument.
Très bien. Docteur Malbos, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à l'utilisation de la réalité virtuelle dans les troubles anxieux, les TOC ou même les addictions. C'est incroyable. On va vous expliquer comment tout cela fonctionne dans un très court instant. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, Bien-être est de retour très vite. On parle de réalité virtuelle en médecine, c'est passionnant. Mais d'avant ça, on va écouter un peu de musique. C'est Patrick Bruel, Place des Grands Hommes.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est
C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. Qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Toi Marco, qui ambitionnait simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai, si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi.
C'était Patrick Bruel sur Europe 1 avec Place des Grands Hommes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Éric Malbos. Vous êtes psychiatre, enseignant et chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et docteur, avec vous, on parle donc de l'intérêt de l'utilisation dès aujourd'hui, parce que c'est déjà dans la pratique, de la réalité virtuelle en psychiatrie notamment. On va détailler quelques indications comme les TOC ou les addictions. Mais avant ça, dites-nous, est-ce que tous les patients qui ont ce type de problème sont éligibles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à la réalité virtuelle? Au traitement avec la réalité virtuelle.
En toute objectivité, non, pas tous. Déjà, il y a des contre-indications. Les patients qui sont épileptiques, photosensibles, uniquement les photosensibles, ne peuvent pas parce qu'évidemment, ils risquent de convulser avec l'écran des casques. Et après, ça va être des patients qui sont plutôt orientés vers le présent et l'avenir, c'est-à-dire qu'ils veulent retrouver une liberté et une indépendance. Si par contre, un patient est plus intéressé par son passé, s'il veut parler de sa grand-mère, de sa mère, de ses rêves, de son enfance, il vaudra mieux qu'il aille voir à ce moment-là un psychanalyste.
En parlant d'enfance, est-ce que vous pouvez aussi traiter des enfants? Est-ce que ça marche aussi chez les petits?
Alors, sur le plan des publications, on commence à voir des articles qui prouvent qu'effectivement, ça marche sur les enfants. Pour l'instant, je connais personne qui le fait officiellement, mais ça marcherait absolument. La seule chose, c'est qu'avec les enfants, surtout entre 6 et 10 ans, comme ils sont encore dans l'imaginaire, il faut vraiment leur expliquer tranquillement avant ce que c'est que la réalité virtuelle pour les préparer, parce qu'ils risqueraient de penser après, l'araignée dans le casque va les poursuivre dans le lit la nuit.
Bien sûr. Alors d'ailleurs, même chez les adultes, avant de démarrer une thérapie par exposition à la réalité virtuelle, il y a une préparation au préalable, une TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, ou une psychanalyse. On les prépare à quoi avant de les lancer dans la machine justement?
On les prépare à gérer leur anxiété, à gérer leur envie de fumer, à gérer leurs pensées de catastrophe ou des pensées dysfonctionnelles comme « Allez, fumer va me calmer », »,« L'avion va s'écraser », »,« Je vais avoir le Covid ». Donc, on va les aider à travailler sur ces pensées qui ne sont pas réalistes. Et on va aussi les aider à travailler sur les émotions, par la gestion des émotions, et sur le corps, par la relaxation.
En parlant de Covid, justement, est-ce que le fait qu'on vive une période un peu extraordinaire, on doit un peu plus se laver les mains, faire attention, est-ce que ça a déclenché plus de TOC par rapport à la propreté? Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs traiter ces TOC liés à la propreté avec cette thérapie virtuelle?
Absolument, on a des patients qui viennent justement du fait du Covid, hein, qui se lavent plus les mains. Je me lave les mains 100 fois par jour et aussi je désinfecte mon téléphone portable avec de l'eau de Javel pour être sûr. Donc c'est sûr que ces personnes-là, on les aide. Et oui, on a des environnements virtuels pour ça. Donc on les expose tout simplement et très lentement.
Mais vous posez à quoi? Des poubelles?
Voilà, des poubelles, des sacs plastiques, des rues sales naturellement. Des
du sang, vous disiez, du sang.
Ouais. Et du vomi, hein, pour ceux qui demandent. Même les vomis, c'est possible.
Ouais.
Tout ça en réalité virtuelle et bien sûr très très lentement et très progressivement avec les outils.
Ils ne nettoient pas tout de suite. Hein. Au début, ils doivent regarder, j'imagine. Vous ne les forcez pas à
bien
nettoyer
sûr,
tout de suite.
On les met à 20 mètres, on les met à 20 mètres au moins.
Oui, avant de lécher le sol. Avant
de lécher le vomi, on te le fait regarder, ça va.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure un peu de la cigarette ou de l'alcool. Est-ce que dans les addictions, ça peut marcher? Si on a envie d'arrêter de fumer, est-ce que ça pourrait nous aider? Ou au contraire, ou avec l'alcool, par exemple?
Absolument. On a publié un article sur ça et 72% des patients fumeurs n'ont pas rechuté. Bon, ça marche très bien sur les addictions au tabac, à l'alcool, à l'héroïne et à la cocaïne. Et on les expose, là, pas les environnements anxiogènes, mais on les expose à des environnements de tentation. Rave party, soirée, pause café au travail, bar de plage.
Vous faites monter l'envie de fumer.
Exactement,
quoi, c'est ça,
le but. On fait monter l'envie de fumer pour que justement, ils sachent quoi faire quand ils ont très envie de fumer. Ou
et
alors...
Ils font quoi alors dans la réalité virtuelle? Ils prennent une clope, ils s'en foutent, c'est une fausse.
Presque. Il y en a des virtuels justement, des clopes.
Donc, on a l'impression de fumer quand on fume une clope virtuelle?
Oui, c'est très intéressant parce qu'ils ont l'impression de fumer et surtout, souvent ils me le disent, j'ai eu la sensation que j'ai senti l'odeur du tabac.
Ah oui.
Alors qu'il n'y avait pourtant pas de tabac du tout, hein, pas d'odeur, je veux dire.
Et donc on est vraiment complètement immergé dans ce monde virtuel.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'on est fatigué après une séance? Parce
moi, j'ai peur
imagine...
que ça me donne envie de vomir, en fait. J'ai eu déjà mis une fois, mais dans des jeux hein, vidéo, et j'étais un peu désorientée en l'enlevant, j'avais la tête qui tournait. Ça peut faire ça?
C'est une très bonne question, en fait, Jimmy, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le cyber sickness en anglais, ou le cyber malaise. C'est un peu comme le mal des transports, on a un peu des nausées, etc. C'est souvent parce que les personnes bougent trop vite. Si vous bougez trop vite la tête pour regarder partout dans la rue où sont les chiens ou les chats ou le vomi justement, etc. Au départ, vous risquez d'avoir effectivement un peu de nausée. C'est pour ça qu'on dit bien aux patients au début, déplacez-vous lentement, bougez la tête lentement.
Et donc ça, de toute façon, vous le gérez. Ils enlèvent, ou vous éteignez le casque, ou enfin, le malaise, on le fait passer, puis on reprend. Quoi,
voilà,
c'est ça.
Si jamais effectivement ils le disent, hein, j'ai un peu de nausée, tout de suite on arrête, immédiatement. Ils font 5 minutes de pause, on reprend et souvent ça va mieux, comme les marins qui s'habituent au bateau.
Pour une première fois dans la réalité virtuelle contre le tabac, par exemple, ça dure combien de temps une séance en général?
Alors, les séances d'apprentissage des outils durent une heure, on les fait en groupe, et après en réalité virtuelle, ça dure une demi-heure.
D'accord.
Donc à Paris-Los Angeles en une demi-heure.
On se dit que c'est de l'équipement, ça doit coûter cher et que du coup parfois c'est un frein à l'accès aux soins. Pour le patient, alors justement, comment on fait pour être pris en charge?
Alors, les consultations dans les hôpitaux publics, hein, donc dans les CHU ou les hôpitaux, la prise en charge, bien sûr, est complète. Hein, c'est l'avantage d'être dans un pays où, justement, il y a un système social. Donc, les patients sont totalement pris en charge. Et aussi, chez les libéraux, comme les médecins, naturellement, et les psychologues agréés.
Très bien. Et par exemple, ceux qui arrêtent de fumer, s'ils rechutent, ils peuvent revenir vous voir ou faire une petite séance de réalité virtuelle de temps en temps comme une piqûre de rappel, c'est bien?
Exactement. C'est comme le vaccin du Covid, il faut faire un rappel.
Très bien. Merci beaucoup, Dr Valbos, de nous avoir accompagnés cet après-midi, de nous avoir fait même presque voyager dans un domaine médical plein d'avenir, la réalité virtuelle. Enfin, d'avenir, c'est déjà là, hein, Jimmy, on a compris.
Ah oui.
C'est la médecine d'aujourd'hui. Bonne continuation. Merci,
merci
encore.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. On va parler d'un bobo qui est difficile à supporter chez les jeunes parents, même si ce sont les bébés qui en souffrent, les coliques du nourrisson. Le docteur Jimmy Mohamed va nous régler ça grâce à quelques bons conseils, comme toujours. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence. Aïe, les bobos du quotidien. Focus sur, vous l'avez compris, les coliques du nourrisson. Comment les reconnaître? À quoi sont-elles dues? Et surtout, pas pitié, comment les soulager? Arrêtez-moi ça en régie, merci. Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Oui, les coliques, ce sont des maux de ventre.
Les coliques, pour moi, c'est les maux de ventre.
Constipation, problèmes intestinaux, les maux de ventre.
Si tu as une mauvaise alimentation, ou alors peut-être
à un exercice intense. Moi, j'associe ça au fait de se tordre.
Quand c'est le nourrisson, les coliques, c'est le ventre aussi, je pense.
Bah, j'ai pas, non. Ils ont les mêmes constipations que nous.
Les coliques du nourrisson, je pense que c'est dû au hockey. Peut-être qu'il avait le hockey, alors en jouant ou avec ses poumons qui étaient peut-être mal formés à l'époque.
Oui, les coliques des enfants, c'est quand il y a quelque chose qui supporte pas.
Suite à une intolérance, à mon avis, au niveau de la nourriture.
Déjà, ça fait mal à l'enfant et ça empêche l'enfant de se reposer, de dormir.
Et les parents aussi, hein, on s'en rappelle, Jimmy. Ah oui. Alors, les coliques du nourrisson, je sais pas. D'abord, personnellement, vos enfants, vous ont fait subir ça ou
c'était,
pas
c'était un enfer, honnêtement. Ouais.
J'ai trois, non, j'en ai eu qu'un sur deux, quelle chance.
Non, deux sur trois. Mais honnêtement, même en tant que médecin, on se sent démuni car
les
c'est le sentiment.
Les cris qu'on a entendus tout à l'heure, c'est un peu ça, les cris de coliques. Ça peut être pire,
ça
je crois.
Peut être pire, ouais. Ça peut être pire. Il y a ce sentiment d'impuissance. Ouais. Et c'est souvent ça qui fait mal aux parents.
Alors, c'est quoi les coliques? Comment on reconnaît les cris? Enfin, je sais pas si c'est par là qu'on reconnaît ou est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui doivent dire tiens, mon enfant, il a fait des coliques.
Alors, il y a une définition des coliques du nourrisson qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est la règle des trois. Trois heures par jour pendant trois jours pendant trois semaines. Donc un bébé qui va se mettre à pleurer à ce moment-là. Alors évidemment, si votre enfant pleure 2h50,
ça marche aussi
deux
quand même.
Jours sur trois, eh bien ça marche aussi. Ça touche les enfants à partir de l'âge de 3-4 semaines. Les coliques du nourrisson sont rares à la naissance et ils s'améliorent quasiment spontanément vers 2-3 mois,
ou
sans qu'on fasse grand-chose.
Ouais, ou 5, ça dépend. Alors, Jimmy, de quoi ça vient? Parce que bon, ça touche que les bébés. Nous, on n'a pas des coliques. Enfin, c'est pas la même chose, en tout cas, quand on parle de coliques chez l'adulte.
Oui, il y a un abus de langage. On a appelé ça colique du nourrisson. On n'est même pas sûr que ce soit des coliques. On n'est même pas sûr qu'ils aient mal. Ça se trouve, ça ne vient pas du tout du ventre.
Il n'y en a jamais aucun qui nous l'a raconté, de toute
Exactement.
Façon.
Exactement. Hein, d'autant plus qu'on a fait des expériences. On a donné de la morphine à des bébés en se disant est-ce qu'ils vont moins souffrir? Eh bien, ils pleurent toujours autant. Et les coliques du nourrisson sont très particulières car c'est des bébés qui vont pleurer notamment le soir et la nuit. Pas tellement en journée, comme s'il se passait quelque chose dans l'horloge biologique
à la tombée
qui
du
déclenche
jour, c'était systématique.
Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a un mécanisme hormonal? Et puis on pense qu'il y a peut-être une piste vis-à-vis du microbiote, le fait d'avoir une motricité intestinale différente, une immaturité du tube digestif pourrait leur donner cet inconfort, car en fait on résume ça à de l'inconfort, un enfant qui va se tortiller, qui n'aura pas forcément mal, mais qui va s'exprimer en pleurant.
Bon, Jimmy, on va arrêter là. Expliquez-nous surtout comment on arrête ça.
Et bien malheureusement, on n'a aucun moyen
D'accord,
efficace
merci.
D'arrêter
Alors,
ça.
Au revoir,
on sait
Jimmy.
En revanche que ça touche 20 à 25% des bébés dans les pays industrialisés.
Il y a des médicaments
touche... Les médicaments, il n'y en a aucun qui marche.
D'accord,
on en donne
bon.
Parfois de temps en temps. On peut donner
les astuces du docteur
les
Jimmy
astuces,
Mohamed.
C'est porter le bébé.
Ouais.
Parce que finalement, il n'y a que ça qui marche. On s'est rendu compte en Afrique, lorsque le bébé est porté dans le dos, ils pleurent moins. Le fait de les masser le ventre dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ça
parfois,
fait du bien,
quand on pète les plombs, eh bien, on laisse le bébé pleurer. C'est pas très grave. Il est 3h du matin, on n'en peut plus. Il pleure 5 minutes, vous le laissez, vous faites autre chose. Et puis, ce qui marche bien, c'est la balade en voiture, en attendant que ça passe.
Ça sent le vécu, la balade
Donc
en voiture. Hein,
c'est les astuces, voilà, parce que malheureusement, il n'y a rien qui passe et ouais. qui fait.
En tisane revanche, fenouil, on m'avait dit.
Le fenouil,
ouais,
ça peut soulager.
S'il y a un inconfort digestif.
Exactement.
Quoi, ouais.
Et puis, n'hésitez pas à en parler, puisque au cas par cas, on peut adapter les traitements. Et surtout, c'est la patience qu'il faut. Et souvent,
j'allais
il faut
vous dire, surtout la bonne nouvelle, c'est que ça passe. Hein.
Exactement, ça passe tout seul, pas de séquelles. Et puis, on oublie vite.
Très bien.
Très
et on en refait des enfants. Donc
oh
ça,
oui.
Ça veut dire que c'est pas si grave. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe.
Oh
ouais, bah moi, j'en referai pas, ça, c'est sûr. Merci pour cet éclairage, presque ce guide de survie, je dirais, pour jeunes parents.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La sexo, ce sera juste après un peu de musique. On écoute la chanteuse Céleste avec un extrait de son premier album. Ça s'appelle Love is Back.
Love is back. Love is back. Love is back. Glass full, so I did, and I saw you.
Love is back. Love is back. Preference, 'cause I know mine, and it's you.
C'est la révélation de l'année 2020 au Royaume-Uni, la chanteuse Céleste sur Europe 1 avec Love is Back.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est évidemment sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, je vous propose d'écouter la question de Julie.
Bonjour Catherine, je suis enceinte de 7 mois et avec mon copain, nous n'avons plus eu de rapport depuis bientôt 5 mois, c'est fou. Je me pose beaucoup de questions sur notre sexualité une fois que j'aurai accouché. Je voulais savoir si j'allais ressentir le même plaisir ou moins qu'avant. Merci beaucoup.
Ah, c'est mignon en même temps parce que c'est vrai que c'est beaucoup de femmes hein, finalement qui attendent un bébé qui se posent ce genre de questions autour de la sexualité. Alors Catherine, c'est parfaitement normal d'abord je crois hein, pour certains couples qui attendent un enfant d'avoir moins de rapports sexuels à un moment donné. C'est très perturbant de toute façon cette phase de la vie finalement.
Bien sûr, ce n'est pas parce qu'un bébé empêche, hein, bien évidemment, il n'y a rien dans la grossesse qui empêche la sexualité. Mais c'est une question d'imaginaire, c'est une question de disponibilité de faire avec ce qui, qui va advenir. Donc une première grossesse qui plus est, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, ou on le vit avec beaucoup de sentiments de toute puissance incroyable, et là, du coup, on est dans la découverte de tous les possibles, ou au contraire, on est dans une inquiétude, un besoin de protéger ce petit, un besoin de se replier déjà sur ce petit nid qu'on est dans lequel il est en train d'évoluer, et du coup, la sexualité est mise naturellement sur la touche. Sans parler, bien sûr, pour l'homme aussi, qui a son imaginaire. Pour certains, au contraire, c'est une découverte de toute cet épanouissement du corps féminin, et pour d'autres, au contraire, c'est extrêmement anxiogène, parce que il y a un tiers avec lequel faire et que ce n'est pas envisageable érotiquement.
Mais là, on peut comprendre que pendant cette période, la vie sexuelle soit un peu différente. Malgré tout, elle s'inquiète de ce qui va se passer après. Elle anticipe déjà qu'il va y avoir des problèmes. Alors qu'en temps normal, peut-être ça se pose même pas ce genre de questions. On n'imagine pas la vie sexuelle après l'accouchement. Elle arrive quand elle arrive. Mais le fait de se projeter en se disant il y aura des problèmes. Est-ce que ce n'est pas signe que quelque chose ne va pas ?
Je crois qu'elle, puisqu'elle dit que c'est fou de ne pas avoir fait l'amour depuis 5 mois.
C'est déjà que ça lui pose problème.
Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait, il puisse y avoir autant de temps de silence quant à sa sexualité. Et donc évidemment, quand il y a un arrêt, on se dit, est-ce que je serais capable de retrouver mon élan ? Puisque là, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas depuis 5 mois. J'ai encore quelques mois de grossesse devant moi. Derrière, il y aura un accouchement. Donc est-ce que je vais arriver à retrouver le chemin de mon érotisme, de ma sexualité, de mes sensations, surtout que dans cette zone-là, la zone génitale, va passer un bébé qui, pour l'instant, rappelons-le, n'y est pas du tout. Hein, il est dans l'utérus, il n'est pas du tout dans la partie du vagin.
Catherine, justement, l'après, il faut rassurer les femmes aussi. Bien sûr que ça peut mettre alors, le temps qu'il faut pour reprendre. Je crois qu'en moyenne, on a des chiffres, hein, Jimmy, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans cette émission, c'est 2 mois ou un truc comme ça après l'accouchement, vous ne vous rappelez pas.
Oui, non, mais vous êtes dans ces eaux-là, effectivement, c'est pas si rapide que ça. Hein,
voilà, souvent, on a tendance
à croire qu'à peine le bébé sorti, ça y est, c'est reparti, on fait comme avant. Non. Pour respecter
au moins
ce temps.
6 semaines, il me semble, minimum.
Voilà, minimum avant le retour des couches, hein, couches, hein, de toute façon, donc ça met du temps. Donc,
grosso modo 45 jours, il faut que cet utérus reprenne sa forme. Il va mettre plus de temps que ça, mais en tout cas, rediminue pour que la musculature reprenne sa place, ses droits.
Mais les sensations pourront être les mêmes après ?
Mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, alors les mêmes oui et non, c'est-à-dire que toute notre vie, nous faisons évoluer nos sensations, et ce n'est pas la faute du bébé. C'est que de toute façon, la première fois, et sinon si c'était exactement la même chose, on se lasserait vite de la sexualité si on n'était pas dans une découverte et redécouverte et déploiement de nos possibilités.
Donc la bonne nouvelle, c'est que ça peut être même mieux.
Bien sûr, mais ça c'est sûr, puisque de toute façon, l'épanouissement sexuel n'est pas une histoire de chair, c'est une histoire psychique. C'est une compétence à ouvrir le champ des possibles pour soi. Donc plus il y a de maturité, plus il y a de potentiel liberté de sa sexualité.
Est-ce que la vie sexuelle, en tout cas les envies, évoluent en fonction de la parentalité? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est papa ou maman, et eh bien tout d'un coup, on a un peu moins envie, on va dire.
Fonction du temps, Jimmy, ouais, du temps qui nous reste.
C'est vrai, aussi. Est-ce qu'il y a moins d'envie? Est-ce que les choses sont un peu différentes?
Oui, parce que le projet est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la sexualité pour se retrouver tous les deux. L'idée de se retrouver en famille est absolument délicieuse. Sans parler, bien sûr, de ce que disait Mélanie, c'est-à-dire la fatigue qui fait que de toute façon, il n'y a qu'une urgence, c'est de dormir. Mais sinon, le bonheur de se retrouver.
Vous connaissez, j'ai l'impression aussi. Hein, mais bon.
Sans commentaire.
Voilà. Mais sinon, le bonheur de se retrouver, papa et maman de ce petit bout de chou que l'on voit évoluer, qui est une source de jouissance incroyable, ses moindres risettes, ses premiers mots, ses premiers gestes, fait que de toute façon, c'est déjà l'expression d'une jouissance et on ne va pas nécessairement la chercher dans la sexualité, du coup.
Une petite tape sur l'épaule et on dort.
Bisous dans le front, allez, à mamie.
Oui, mais c'est charmant aussi. Le tout, c'est évidemment de ne pas faire de ce bébé le centre du monde, mais il ne faut pas s'étonner qu'il le soit un peu. C'est quand même une chose absolument incroyable.
Ouais. Quand on en a trois ou plus, hein, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Vous avez senti le vécu hein, sur la fin de cette chronique.
Ouais, voilà. C'était à fond. Hein.
Ouais, on est des jeunes parents. Voilà.
C'est la fin de cette émission. J'ai de la peine pour vous. Non, c'est pas vrai.
Vous pouvez, Catherine, vous pouvez avoir de la peine.
On
surtout pour Mélanie.
Pour les trucs intimes, c'est fini. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie.
Bonjour, madame.
Quels escrocs. Oui, on va parler d'escrocs aujourd'hui.
De Mélanie et Jimmy Moamed.
Non, je parlais de vous, non?
Ah non. Je ne sais pas, il faut qu'on s'entende bien entre émissions quand même.
Monsieur Vrin-Lucas, lui, il faisait c'était un faussaire qui faisait des faux en écriture.
Ouais. Des faux autographes. Des faux d'Aristote, de Pascal.
Des faux Cléopâtre.
Et pourtant, ça a marché.
Victor Lustig, le type qui a voulu vendre la Tour Eiffel. Il y a quand même un gogo.
Il l'a vendu.
Il a trouvé un poisson.
9 millions d'euros, il a perdu l'équivalent de l'époque.
Et vous, vous avez choisi qui?
Moi, un personnage que Steven Spielberg a utilisé pour faire un de ses films phares, Catch Me If You Can. C'est une star vraie, celle de Frank Abagnale Jr. Le mec a fait des faux chèques, il a été faux pilote de ligne, faux médecin, faux avocat, et pourtant il a réussi l'examen du barreau.
C'est
comme
Leonardo DiCaprio, non, qui fait ça.
Effectivement,
j'aime beaucoup.
Vous aimez beaucoup Leonardo DiCaprio. Ça m'étonne pas de vous, ça m'étonne pas de vous, Mélanie.
Allez, pour Leonardo ou pour le reste surtout, restez avec nous sur Europe 1.